Bonjour à toutes, bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Je suis tellement heureux de pouvoir être avec vous pour cette occasion de Noël et puis aussi avec ceux qui nous suivent à distance sur notre chaîne YouTube. Mais un grand merci aux enfants, tout le travail qui a été accompli. Je suis épaté et je suis aussi impressionné que vous soyez aussi bien enseignés dans cette église. Et donc, félicitations aussi à toute l'équipe, à Rebecca et tous les moniteurs et monitrices d'Envol. Que Dieu vous bénisse et que vous encourage vraiment par le beau récit là, que vous avez fait. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Ruth, donc. Et là, on va voir l'un des personnages qu'on a vu tout à l'heure dans cette grande fresque. Cette petite femme moabite, presque. Cette petite femme moabite. Et avant de faire la lecture, qui va nous être faite aussi par des jeunes, j'aimerais vous poser le décor. On est à peu près en 1100 avant Jésus-Christ. On est à Bethléem, une petite ville à 10-15 km au sud de Jérusalem. Il y a deux femmes, Naomi et Ruth, sa belle-fille, qui sont récemment arrivées de Moab, le pays voisin, et qui sont revenus chercher consolation à Bethléem. En fait, Naomi était partie avec sa famille, son mari et ses deux fils, à Moab pour chercher refuge. Et puis finalement, ça a été son mari est décédé, Elimelech, et puis ses deux fils sont décédés également. Et donc, une grande souffrance. Et là, elles sont maintenant tous deux veuves. Elles sont démunies de tout, pauvres, et puis sans enfants. Et Ruth a courageusement glané quelques grains de blé et quelques épis dans les champs qui se trouvent appartenir à un certain Boaz, un homme plein de miséricorde, et qui se trouve être aussi un proche parent. C'est ce qu'on voit la dernière fois au chapitre 2 et au verset 20. Et maintenant, quelques mots sur droit de rachat. C'est quoi quelqu'un qui a le droit de rachat? Eh bien, c'est une disposition de la loi de Moïse qui prévoyait que lorsqu'un Israélite avait vendu sa propriété ou sa personne pour raison économique, hein, pour faillite, eh bien, une petite précision, on vendait le fond, mais on vendait pas on vendait pas le fond, on vendait juste l'usufruit. Donc, ce qui était vendu, c'était les récoltes jusqu'au jubilé. Donc, lui-même ou un de ses proches, parents, pouvait racheter cette terre. Il est probable, donc, que Naomi et mon mari et Elimelech avaient vendu, avant de quitter Bethléem, ils avaient vendu leur terre pour pouvoir faire ce voyage et aller chercher réconfort à Moab. Revenu à Bethléem, il est maintenant naturel que Naomi cherche ou espère trouver un proche parent qui puisse racheter pour elle cette propriété et de sorte qu'elle puisse en jouir. La loi prévoyait aussi qu'une veuve restée sans enfant devienne la femme, écoutez-moi bien, du frère du défunt. De sorte que le proche parent donc, offre une descendance à son frère décédé. De sorte que le premier mâle né de cette nouvelle union eh bien, soit l'héritier du nom et perpétue donc le nom de du défunt. Ça, c'est la loi du Lévirat, et c'est aussi ce qui va se passer dans cette histoire de Ruth. Mais il fallait donc un proche parent qui, non seulement puisse racheter, mais aussi le veuille. Et c'est ce qu'on va voir, et on va écouter à présent la lecture donc, de Ruth, chapitre 3, par le groupe de jeunes. C'est moi qui peut-être dois lancer la chose. C'est bon.
Livre de Ruth, chapitre 3. Naomi, sa belle-mère, lui dit
« Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent ? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oint-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. »
Elle lui répondit :
« Je ferai tout ce que tu as dit. »
Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha, et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit :
« Qui es-tu ? »
Elle répondit :
« Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aide sur ta servante, car tu as droit de rachat. »
Et il dit :
« Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe la nuit ici, et demain, s'il veut envers toi du droit de rachat, à la bonne heure, qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai, moi, l'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. »
Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin, et elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit : «
Qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. »
Et il ajouta : «
Donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. »
Elle le tint, et il mesura 6 mesures d'or, il chargea sur elle. Puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère, et Naomi dit : «
Est-ce toi, ma fille ? »
Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit : «
Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant : tu ne retourneras pas vite vers ta belle-mère. »
Et Naomi dit : «
Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. »
Voilà l'histoire. Merci beaucoup aux collégiens pour leur service de lecture. Parfait. Cette coutume, donc, du droit de rachat illustrait une réalité spirituelle bien plus grande, vous vous en doutez, celle de l'œuvre de rédemption voulue et accomplie par Dieu lui-même pour racheter ceux qui sont étrangers de la famille de Dieu, ceux qui se sont vendus au péché, c'est-à-dire nous tous. Boaz, c'est une figure de Christ, il est lui aussi de Bethléem. Il est, en tant que frère, capable de nous racheter par sa mort sur la croix et nous délivrer de la puissance du péché. Mais comment cela va-t-il se faire ? C'est ce que nous voyons à présent. Je vous propose de voir ce matin donc l'idée ambiguë qui a été celle de Naomi. Et on verra ensuite la demande humble de Ruth, et puis enfin on verra la réponse noble de Boaz. Regardons l'idée ambiguë de Naomi. Dans les versets 1 à 8, quand on entrevoit une possibilité de délivrance, on a tendance à essayer de forcer le destin, n'est-ce pas ? C'est ce que fait ici Naomi pour assurer le repos de Ruth. Le moment est propice, d'après elle. C'est celui du vannage de l'orge. Le vannage, c'est on bat le blé, et puis, en fait, c'est pour séparer le grain et de la balle. Et puis, ensuite, on l'envoie tout ça en l'air, et puis, il y a le petit vent, là, qui emmène la balle, et reste le grain que l'on amasse dans des sacs. On fait ça la soirée, justement, parce que le vent se lève le soir. Et puis, alors, on mange ensemble, autour d'un feu, on célèbre la récolte, on boit un coup, et puis on va se coucher dans la paille pour surveiller les sacs de grains. Il y a une bonne ambiance. C'est un peu l'esprit de nos vendanges en France. Il y a la joie, une bonne journée de travail, le fruit de la récolte qui est là. Et il y a le gars qui met l'ambiance avec sa guitare ou son accordéon. Et puis là, on fait la fête, quoi. Et Naomi sait que lorsque Boaz ira se coucher, il sera d'humeur joyeuse. Il aura bu un petit coup et puis il aura passé une très bonne journée à masser tout ce grain. Et il sera disposé, peut-être plus facilement, à accorder une faveur. Ou peut-être même qu'elle a en tête que cet homme qui est si vertueux, eh bien, abandonnera un peu ses principes quand il verra la charmante demoiselle ou jeune femme à ses pieds. Elle encourage Ruth à mettre tous ses atouts de son côté. Vous avez remarqué, au verset 3, elle lui dit « Lave-toi, parfume-toi, et puis remets tes habits ». Et plutôt que de penser qu'elle remet des habits sales, un commentateur, Younger, suggère qu'elle l'invite plutôt à abandonner ses habits de deuil pour revêtir des habits normaux et se présenter à Boaz, non plus comme une veuve, mais comme une épouse potentielle. Sous-entendu, je suis open à toute proposition. Voilà le plan de Naomi. Tu n'auras pas besoin de dire quoi que ce soit. Il te dira ce que tu auras à faire. N'est-ce pas une attitude familière d'essayer de manipuler Dieu plutôt que de lui faire confiance, de vouloir donner un coup de pouce à la providence de Dieu, d'utiliser des voies un petit peu tordues, des voies borderline, ambiguës. C'est la stratégie qu'on trouve ici. Mais aussi, c'était celle, si vous vous souvenez, les enfants, de Rebecca avec son fils Jacob, pour pouvoir s'emparer de la bénédiction. Et justement, au verset 8, il est dit qu'au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la lecture, mais on a l'impression que la frayeur le réveille, et là, il découvre une femme à ses pieds. Et non pas que la femme l'ait réveillée. Ça n'est pas un frisson. Il y a quelques traductions qui ont traduit « frisson », mais je ne crois pas que ce soit un frisson. Ce n'est pas le frisson que je peux connaître lorsque il me reste juste un petit carré de la couette et que là, je me réveille. Non, ce n'est pas cela. Salutations à mon épouse. Non, ici, c'est vraiment autre chose. Ça a été traduit dans notre Bible, une frayeur. La première fois qu'on trouve ce mot, cette expression, eh bien, dans la Bible, c'est une émotion violente, une violente émotion. Je vous lis ce verset en Genèse 27, c'est le moment où Isaac fut saisi d'une grande, d'une violente émotion, et il dit « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté ? J'ai mangé de tout avant que tu viennes, et je l'ai béni aussi, sera-t-il béni ?» Il s'agit de l'émotion ressentie par Isaac lorsqu'il réalise qu'il a été manipulé pour donner la bénédiction à un autre qu'à son fils aîné, Ésaü. Mais il réalise que, même si les méthodes étaient frauduleuses, c'est la volonté de Dieu qui s'est accomplie. La méthode ici est pour le moins ambiguë de la part de Naomi, comme l'était celle de Rebecca et de son fils Jacob. Quand on réalise que l'on a besoin d'être sauvé par Dieu, on a tendance à vouloir amadouer Dieu. On a tendance à vouloir, par nos attitudes, par notre... un masque que l'on porte se rend plus acceptable pour lui, à ses yeux. On cache nos fautes. Mais lui, il voit tout. Ça n'a aucun sens. C'est pour ça que c'est ambigu. Quand on s'approche de Dieu, il faut s'approcher tel que l'on est. Venir tel que l'on est. On n'a rien à cacher à Dieu. Ce qui nous pousse à regarder la demande humble de Ruth. Ruth s'écarte à présent des conseils de sa belle-mère. Elle lui avait dit il te dira ce que tu dois faire. Mais elle prend la parole et elle lui demande, verset 9, d'étendre son aile ou le pan de son manteau sur elle parce qu'il a le droit de rachat. Ici, c'est dans la pensée de l'époque, il est en train de dire, s'il te plaît, épouse-moi, prends-moi comme femme. Et elle dit, sauve-moi et sauve-nous. Elle prend les termes que Boaz avait utilisés lui-même dans sa bénédiction au chapitre 2 et au verset 12. Hein, il lui avait dit, tu es venu te réconforter, rechercher le refuge de sous les ailes du Dieu d'Israël. Et donc, elle dit maintenant, eh bien, couvre-moi, toi, de ton aile. Que la réponse à ta prière, eh bien, ce soit toi qui l'accomplisse envers moi maintenant. Secours-moi. C'est vraiment une attitude humble. Là, elle dit, j'ai besoin de toi. Si tu ne me prends pas, je suis perdu. Et on voit la réponse de Boaz à cela, et ça confirme vraiment l'intention de Ruth. Au verset 10, il dit, je vous lis ça dans la traduction Semeur, « Que l'Éternel te bénisse, ma fille, lui dit-il. Ce que tu viens de faire est une preuve d'amour envers ta belle-mère, encore plus grande que ce que tu as déjà fait. Tu as montré une grande fidélité en suivant ta belle-mère, jusqu'ici, en terre étrangère. Tu as été vraiment courageuse, tu as été travailleuse, tu as exprimé vraiment beaucoup de reconnaissance et de générosité envers ta belle-mère. » Finalement, en disant cela, elle montre que son désir premier est de relever le nom de son défunt mari. Elle lui dit, épouse-moi parce que tu as le droit de rachat. Et en fait, elle a en tête, elle n'a aucune possession ici, elle, mais elle a en tête son défunt mari. Elle lui dit, suscite une postérité à mon défunt mari. Relève son nom. Garde cette lignée. Et vous comprenez que pour Boaz, c'est vraiment extraordinaire. Elle fait preuve ici d'une grande loyauté envers sa famille. Avant de penser à sa propre situation, elle pense à sa famille. Et je pense que c'est ce que le narrateur veut nous faire comprendre ici. Il met ça en évidence dans tout le chapitre. Il n'est jamais fait mention de Ruth comme de la Moabite, comme de la femme étrangère. Elle est toujours appelée « ma fille ». C'est vraiment, et elle agit vraiment en fille de la maison. En une épouse qui veut maintenant relever le nom de son défunt mari. Elle agit en protectrice de la famille. Et Boaz, vraiment, il est séduit par ça. Vraiment, du coup, là, il est séduit. Hein, pas tellement par la fraîcheur du savon ou la jeunesse de cette jeune femme, par son parfum, ni par ses nouveaux vêtements, mais par son cœur. Et par sa loyauté. Il est conscient qu'il ne représente pas humainement un parti très séduisant pour Ruth. Il est quand même d'un certain âge, semble-t-il. Il l'appelle lui aussi « ma fille », verset 10, verset 11. Elle pouvait objectivement rechercher un jeune homme, beau et riche, comme le dit Boaz. Il associe au fond cette demande en mariage comme un sacrifice auquel elle consent pour relever le nom de son défunt mari. Et lui, il pense qu'elle aurait pu ignorer la question même du droit de rachat et répondre peut-être aux avances d'un jeune prétendant. Et comme le fait remarquer un autre commentateur, Daniel Arnold, dans son commentaire, il dit « Un homme comme Boaz pourrait être... un autre homme que Boaz, pardon, pourrait être peiné d'apprendre que Ruth ne l'ait pas choisi pour lui-même, mais par obéissance à une loi de l'Éternel. » Mais ce n'est pas le cas de Boaz, car lui aussi, il place la volonté de Dieu au-dessus de tout. Comment ne pas penser à l'histoire de Noël et à Marie, une jeune femme qui se retrouve aussi dans une situation pour le moins ambiguë. Elle est enceinte, sans être mariée. C'est un ange qui lui a annoncé qu'elle deviendrait enceinte d'un garçon. auquel elle devra donner le nom de Jésus, et elle accepte. Elle accepte la chose, quitte à connaître la honte, à être rejetée par son fiancé et par sa famille. Elle dit simplement, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Oh, quelle foi, quelle confiance, quelle obéissance. De quoi produire l'admiration et l'amour de Joseph, hein. Voilà une attitude que nous devrions rechercher. La volonté de Dieu est toujours meilleure que la nôtre. Voyons enfin la réponse du noble de Boaz. Dans les versets 11 à 18. La renommée de Ruth, dit-il au verset 11, s'est répandue en quelques semaines dans toute Bethléem. Il dit, tout le monde sait que tu es une femme vertueuse. Tu es un modèle de femme. Boaz, lui aussi, il veut accomplir ce que lui demande la loi. Même si, d'une certaine manière, Ruth n'est pas non plus le parti de rêve. C'est une histoire d'amour, mais vous voyez, la chose, elle est plus jeune que lui, certes, mais elle a quand même 10 années de mariage au compteur. C'est pas une première main. Elle est probablement stérile, pas eu encore d'enfant. Elle est étrangère. Elle n'apporte rien dans le foyer. Elle est pauvre. Et en plus, elle vient pas seule. Elle vient avec sa belle-mère. C'est le lot. Pack. On est un peu comme ça quand on vient devant Dieu. Pas tellement désirable, pas grand-chose à faire valoir. On arrive stérile, sans fruit pour la gloire de Dieu. On arrive pauvre en justice, en sainteté. Mais elle vient, telle qu'elle est, et elle exprime humblement sa demande, « Secours-moi ». Mais, et il y a un « mais » de taille ici, au verset 12, mais il y a un parent plus proche qui a le droit de rachat avant Boaz. Alors on imagine que Boaz avait déjà envisagé la chose parce qu'il a tout de suite la réponse. Mais il n'avait rien entrepris non plus jusque-là. Et on suppose que peut-être il laissait faire celui qui était le parent le plus proche d'entreprendre l'initiative envers Ruth. Mais il prête un serment ici en disant, si celui qui a le droit de rachat avant moi renonce à ce droit, je le ferai. L'Éternel est vivant. Et il va régler cette affaire dès le lendemain. Il lui dit de rester dormir là et de rentrer, parce que rentrer en pleine nuit, on peut imaginer que ça pouvait être un peu dangereux. Mais il est aussi soucieux de préserver sa réputation. Eux, ils ont une bonne conscience, mais il ne faudrait pas que quelqu'un les voit Ruth sortir de la couche de Boaz. Et ensuite, quand on lui dirait « rachète cette jeune femme, veuve », et si on dit « ah, mais elle a déjà été avec Boaz », ça n'aurait pas été une bonne chose. Et donc, il va préserver aussi sa réputation, comme Joseph a préservé la réputation de Marie. Boaz la renvoie au petit matin. Et il la charge de 6 mesures d'orge, ça fait 25 litres, difficile pour elle de porter plus que cela. Puis, il est dit, verset 15, il entra dans la ville, c'est-à-dire, il la fait partir, et lui, il rentre dans la ville, il va régler immédiatement cette affaire de droit de rachat. Elle arrive chez sa belle-mère, elle raconte tout ce qui s'est passé, elle rapporte les paroles de Boaz, verset 17, il a dit, je ne vais pas te laisser rentrer sans rien chez ta belle-mère. Et en fait, elle revient avec tout ce chargement. C'est pour sa belle-mère qu'elle apporte ça. Ça signifie, de la part de Boaz, oui, je vais t'épouser si si je le peux, je t'épouse, mais je prendrai aussi soin de ta belle-mère. Ça, c'est une grande promesse. Je ne sais pas si vous avez remarqué cette bizarrerie au verset 16. Elle dit, quand Ruth rentre chez elle, Naomi lui dit, « Est-ce toi, ma fille ?» Qui voulait-elle que ce soit ? Mais littéralement, elle dit, « Qui es-tu ?» Et là, peut-être ça devrait nous faire réfléchir un peu. Un peu comme si elle lui demande, « En qui, en qualité de qui reviens-tu ? Qui es-tu maintenant ? Es-tu toujours la veuve de Machlon ou la fiancée de Boaz ? Es-tu veuve ou fiancée ? » Elle anticipe un peu le rachat, vous voyez, un rachat qui va changer radicalement son identité. Elle était femme de Machlon. Machlon, ça signifie malade, hein, on l'avait vu ça la dernière fois. Et Boaz, ça signifie force. Waouh, c'est autre chose. Eh bien, par la foi en Jésus-Christ, notre Rédempteur, Dieu nous offre une nouvelle identité. Nous ne sommes plus des étrangers. Nous ne sommes plus des exclus, des rebelles. Nous sommes des gens de la maison de Dieu. Nous sommes des citoyens des cieux. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu. Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Cette nouvelle identité change tout. Imaginez ce que représente l'obtention de ces papiers pour un réfugié. Il passe d'un statut de clandestin qui n'a aucun droit à celui d'un citoyen. Il peut travailler, il va pouvoir être soigné, bénéficier des aides au logement. Il ne craint plus l'expulsion. Il ne craint plus le rejet. Non, il vit paisiblement. Dieu fait plus encore pour nous. Et d'une manière définitive, il nous offre une citoyenneté pour demeurer dans sa présence. Il nous offre sa provision parce qu'il est notre Père et qu'un Père prend soin de ses enfants. Il nous offre son conseil. Il nous offre son instruction. Il nous offre une famille. Et être accepté dans la famille de Dieu, ça vaut mieux que d'être accepté dans n'importe haute école. Ça vaut mieux que d'être accepté dans n'importe quelle grande entreprise. Ça vaut mieux que d'être accepté dans n'importe quelle belle famille. On a déjà vu au verset 8 que l'expression de la frayeur faisait référence à l'émotion violente ressentie par Isaac au moment où il réalise qu'il a béni Jacob, pensant bénir Ésaü. Et pourquoi Jacob s'est-il trompé de fils ? Mais parce qu'il était vieux et parce qu'il était aveugle. Quand Jacob s'est fait passer pour Ésaü, Isaac a demandé « Qui es-tu, mon fils ?» Jacob a dit « Je suis Ésaü. » Alors, Isaac a mangé. Et puis Isaac a béni Jacob. Quelques instants plus tard, Ésaü est arrivé, l'aîné, avec un plat, comme le lui avait demandé son père. Et là, il arrive et il lui apporte le plat et Isaac dit, « Qui es-tu ? » ?»« Mais je suis Ésaü, je suis ton aîné. Voilà ton plat, tu vas me bénir. » Et là, grande, violente, émotion, frayeur. Qui est-ce que j'ai béni ? Dieu, tu es souverain, tu m'as permis de bénir et il sera béni. Jacob. Et vous voyez la chose, dans notre passage, on a Boaz, la nuit, là, qui dit à cette femme qui est à ses pieds, « Qui es-tu ? » Et puis on a Naomi, quand elle voit sa belle-fille arriver, qui lui dit « Qui es-tu ? » Et puis on a cette frayeur. Et puis on a aussi le serment de Boaz. Et puis on a aussi cette manière manipulatrice de Naomi qui fait référence à celle de Rebecca et de Jacob. Et vous comprenez que ici l'auteur, il est en train de nous dire, je veux que vous pensiez à ce qui s'est passé au moment de la bénédiction. Je veux que vous pensiez à cette histoire de la bénédiction depuis Abraham. Je veux que vous associez l'histoire de Ruth avec l'histoire de la bénédiction, de la promesse. C'est cousu de fil blanc. Il veut que nous associons cette histoire de Boaz et Ruth à la grande promesse que Dieu a faite à Abraham, que toutes les nations de la terre seront bénies en sa postérité. C'est exactement la fresque qui nous a été présentée par les enfants, le tronc d'Isaïe, là. On est en train de suivre la lignée ici. Il est évident que Dieu veut nous faire penser à cela ici. La bénédiction a été transmise d'Abraham à Isaac, d'Isaac, malgré lui, à Jacob, de Jacob à ses fils, et notamment à Judas. Et à Judas, il a dit, le sceptre de la royauté ne s'éloignera pas de toi. Il est en train de dire ça alors qu'il n'y a pas de roi en Israël. Et Judas, c'est qui? C'est les habitants de Bethléem. Vous voyez la chose? Et il dit, la bénédiction, la royauté ne s'éloignera pas de toi jusqu'à ce que vienne le Shiloh, c'est-à-dire le Messie. Waouh! Le chapitre 3, il termine avec cette mélange d'attente, d'espoir concernant le rachat de Ruth et le relèvement de Naomi. Dans la période tellement sombre des juges, où il n'y avait pas encore de roi, où chacun faisait ce qui lui semblait bon, souvent n'importe quoi, l'auteur du livre nous invite ici à nous souvenir de la promesse faite à Abraham, Isaac, Jacob, Judas. Que cette promesse, maintenant, repose sur Boaz et Ruth, les arrière-grands-parents de David, le roi d'Israël, selon le cœur de Dieu, de qui viendrait le Messie, par lequel toutes les nations de la terre seront bénies. Jésus, le roi des Juifs, celui qui devait naître à Bethléem. C'est comme si l'auteur nous disait, suivez Ruth, vous trouverez le Messie et la bénédiction. C'est pour ça que dans la lecture qu'on a fait juste avant de Zacharie, le cantique de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, lorsqu'il apprend la naissance de son futur fils et du rôle que Jean-Baptiste va jouer dans la préparation de la venue du Messie, eh bien, il dit, béni soit Dieu qui s'est souvenu de son alliance, du serment fait à Abraham, qu'il nous donnerait un puissant sauveur, annoncé par les prophètes. Vous vous rendez compte? Entre Zacharie, là, qui prophétise ça, et Abraham, il y a 2000 ans. Abraham a reçu cette promesse que le Messie viendrait. Et puis, 1000 ans plus tard, David est venu. Le Messie devait être le descendant de David. Et 1000 ans plus tard, Jésus vient. Et Zacharie, il fait la connexion avec tout ça. Vous imaginez, 2000 ans séparent de la promesse faite à Abraham à Jésus. Et aujourd'hui, ça fait 2000 ans que la promesse est faite pour nous. Dieu est fidèle. S'il a mis 2000 ans à conduire cette promesse, il peut faire ce qu'il veut aussi dans votre cœur et vous amener à un plein salut. Son œuvre est vraiment efficace encore aujourd'hui. C'est lui, Jésus, notre Rédempteur, celui qui nous rachète de notre vaine manière de vivre, de notre esclavage du péché, et qui fait de nous ses enfants, ses héritiers, les héritiers de sa gloire. On a vécu une année difficile, une année pleine de craintes, d'incertitudes. Mais cette histoire, elle pointe vers Noël, qui nous rappelle encore combien Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses et pour nous racheter. Il fait grâce. Il est notre Rédempteur, Jésus-Christ, le Sauveur. Plutôt que de chercher à, d'une manière tordue à nous attirer les faveurs de Dieu, comme essayait de le faire Naomi, on peut demander à Christ, tout simplement, humblement, « Tu connais mon cœur. Sans toi, je suis perdu, je suis un pécheur, je n'arrive pas à changer. Mais tu peux me sauver. Tu as le droit et le pouvoir de me racheter. » Et se souvenir qu'il a promis et qu'il tient toujours ses promesses. Il est riche et il est désireux de le faire. Et il le fait pour chacun qui s'approche de lui et qui le lui demande. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël. Et je vous invite à vous incliner dans la prière avec moi avant d'être conduit dans un dernier cantique. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour la grandeur de ta fidélité. Seigneur, tu nous révèles, Seigneur, combien tu as tissé au fil des siècles, Seigneur, une généalogie, une descendance, une promesse sur que nous serions délivrés de tous nos péchés, que nous serions bénis véritablement, Seigneur, de toutes les bénédictions de Dieu, simplement par la foi, par cette attitude humble de reconnaître qu'on a tellement besoin de toi, et que tu as déjà payé pour nous à la croix, que tu t'es offert, toi, le Sauveur, pour payer à notre place. Et Seigneur, on veut te louer pour cela, on veut te remercier, on veut aussi te prier pour tous ceux qui, que ce soit devant leur écran ou ici dans cette salle, puissent sont troublés par leurs propres fautes, leur manque d'espérance, leurs craintes. Seigneur, on te prie pour que chacun puisse se tourner vers toi et te demander de les racheter à cause de du sang versé à la croix, à cause du prix que tu as payé. Seigneur, on n'a rien à t'offrir. On ne peut pas paraître mieux que l'on est. Mais on peut simplement te faire confiance. Et c'est ce qu'on te prie à présent. Par Jésus-Christ. Amen.